France Info.
On a connu la semaine dernière, mais quand même, ça va souffler fort. Les cumuls de pluie seront importants également, surtout sur le Finistère qui est déjà en vigilance orange et on verra si cette vigilance évolue. Sur le reste des régions, entre le sud-ouest et le nord-est, vous avez un temps mitigé avec des éclaircies, mais elles ne tiennent pas. Les nuages seront encore nombreux à défiler. Dans le sud, c'est pas mieux. Les nuages sont toujours en place entre le Languedoc-Roussillon et les Cévennes et ils lâchent toujours de plus en plus d'averses. D'ailleurs, des pluies qui devraient prendre un caractère continu à partir de la fin de journée sur les Cévennes autour. Et c'est un épisode cévenol qui se prépare et qui devrait surtout se poursuivre encore demain avec des pluies soutenues et tout au long du week-end. Et puis à noter le vent également qui est présent sur les crêtes pyrénéennes et le massif central. Les températures, c'est comme hier, relativement doux pour un mois de janvier.
Et on verra ces températures en précision avec vous, avec une nouvelle météo dans 10 minutes. Merci Christine Peña et merci à tous d'écouter France Info. Il est 5h. Et à la une de ce 15 janvier, la France qui va envoyer du personnel militaire au Groenland alors que les États-Unis n'ont rien cédé face au ministre des Affaires étrangères danois, Donald Trump, qui temporise aussi désormais visiblement sur une intervention en Iran. Vous entendrez une prix Nobel de la paix iranienne qui lui demande d'aider son peuple. À la une également ce matin, la fin de la grève des médecins, même si beaucoup comptent encore débrayer les chirurgiens. Et puis l'immense joie au Maroc, le pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations qui se qualifie pour la finale. Est-ce le signe d'une escalade à venir? Plusieurs pays européens, dont la France, vont participer à une mission militaire au Groenland, territoire de l'Arctique que le président américain menace d'annexer. De premiers éléments militaires sont d'ores et déjà en chemin, écrit Emmanuel Macron sur X. Il ajoute, Virginie Pironon, que d'autres suivront.
C'est à la demande du Danemark, précise le chef de l'État, que Paris participe à cette mission de reconnaissance dans le cadre de l'opération Endurance Arctique. Selon l'AFP, je cite, « La France envoie des membres d'unités de montagne aguerris au climat froid ». Autre pays qui contribue à cet exercice commun, la Suède, la Norvège, l'Allemagne. Berlin envoie également 13 membres de son armée sur place dès aujourd'hui. Il s'agit de tenter de définir, je cite, « d'éventuelles contributions militaires pour soutenir le Danemark ». Par exemple, dans le domaine des capacités de surveillance maritime. Tout un symbole, une manière pour les pays européens d'afficher leur solidarité avec le Danemark, accusé par les États-Unis de ne pas s'engager suffisamment pour la sécurité arctique. Donald Trump campe sur ses positions. Hier encore, à l'issue d'une rencontre à la Maison-Blanche, Copenhague a affiché, je cite, « son désaccord fondamental avec le président américain » et dénoncé sa volonté de conquérir le Groenland. À Paris, un conseil de défense est convoqué en urgence ce matin pour évoquer la situation.
Merci beaucoup Virginie Pironon. Vous en parliez à l'instant, donc une réunion était organisée hier à la Maison Blanche avec d'un côté de la table le vice-président J.D. Vance, le secrétaire d'État Marco Rubio et de l'autre les patrons des diplomaties danoises et groenlandaises dont Lars Rasmussen, le représentant de Copenhague. Et ce qu'il en est ressorti, c'est qu'il n'y a pas pour le moment de détente.
Les discussions sont concentrées sur comment assurer la sécurité à long terme du Groenland. Et nos points de vue continuent à diverger, je dois dire. Le président a clairement exprimé son point de vue et nous avons une différente position. Pour nous, les idées qui ne respecteraient pas l'intégrité territoriale du Royaume du Danemark et le droit à l'autodétermination du peuple du Groenland sont bien sûr totalement inacceptables.
Lars Rasmussen, le ministre danois des Affaires étrangères. Autre déclaration de Donald Trump qui a fait beaucoup réagir ces dernières heures sur les marchés avec les prix du pétrole qui baissent de 3% sur les manifestations qui sont durement réprimées en Iran. Selon le président américain, les tueries ont pris fin et la perspective d'une intervention militaire des États-Unis semble peut-être s'éloigner. On le rappelle, selon le dernier bilan, près de 3500 personnes au moins ont été tuées selon l'ONG Iran Human Rights. Écoutez, Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix 2003, ancienne juge et avocate iranienne, elle demande aux États-Unis, malgré tout, d'intervenir pour mettre fin au bain de sang.
Ce que nous demandons et ce que nous voulons, ce sont des mesures qui empêchent le massacre des Iraniens. Les États-Unis peuvent perturber les systèmes de communication. Cela aiderait à mettre fin à la propagande du régime. L'autre option, c'est la possibilité de mener des actions extrêmement ciblées contre le guide suprême d'Iran et des commandants supérieurs des gardiens de la révolution. Empêcher le massacre du peuple iranien ne nécessite pas une guerre totale. Cela ne suppose pas de tuer davantage de personnes. Ce que nous voulons, ce n'est pas une guerre, mais que l'on arrête de tuer des gens.
Shirin Ebadi, la prix Nobel de la paix 2003 sur la chaîne allemande Deutsche Welle. Les recherches sont toujours en cours pour retrouver le corps d'un plongeur de l'Institut polaire français Paul-Émile Victor en Terre Adélie sur le continent antarctique. Il a disparu mardi matin lors d'une plongée sous la glace. Les circonstances du drame sont encore floues. Il s'agissait d'une plongée pour contrôler un instrument scientifique. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République de Saint-Pierre de la Réunion dont dépend l'Antarctique. Encore une journée de mobilisation pour une partie du monde agricole. Appel de la FNSEA par exemple et des jeunes agriculteurs à bloquer les ponts de 11 communes des Landes. Hier, une cinquantaine de membres de la Confédération paysanne cette fois ont été interpellés. Ils s'étaient introduits dans une annexe du ministère de l'Agriculture à Paris. Parmi les personnes interpellées, les trois porte-paroles du syndicat agricole classé à gauche. Un autre mouvement, celui des médecins libéraux qui prend fin après 10 jours de grève. Mais d'autres praticiens, eux, comptent poursuivre leur mobilisation pour dénoncer des mesures du budget de la sécurité sociale et une dérive, selon eux, autoritaire de la gouvernance du système de santé. Le Bloc, une coalition de syndicats de chirurgiens, d'anesthésistes, de gynécologues, appelle désormais à une grève illimitée sur les gardes en soirée et les week-ends dans les cliniques. Il dénonce un silence assourdissant de Matignon. Il refuse d'être reçu par la ministre de la Santé. Ils exigent un rendez-vous encore plus haut niveau de l'État. Philippe Cuc est le coprésident du syndicat Le Bloc.
La seule réponse des pouvoirs publics aujourd'hui, ça a été de réquisitionner de façon massive les professionnels du bloc opératoire. Des milliers de réquisitions ont été faites. Et jusqu'à maintenant, on n'a aucun contact avec Matignon et les services du Premier ministre. Et je faisais ce rapprochement entre le mouvement des agriculteurs, qui est un mouvement aussi très important pour les Français. Les agriculteurs nourrissent le pays et il faut les soutenir, bien sûr. Les médecins soignent les Français, la médecine libérale soigne de façon importante les Français. Et donc, cet arrêt d'activité de la permanence de soins va se poursuivre jusqu'à ce que le Premier ministre et ses services reçoivent l'intersyndicale des médecins libéraux pour essayer de résoudre et d'avancer sur nos difficultés.
Le coprésident du syndicat Le Bloc, Philippe Cuc, Jean-Marc Morandini va rester à l'antenne de CNews. Malgré sa condamnation définitive hier pour corruption de mineurs pour des messages à caractère sexuel envoyé à des adolescents. Il n'y a pas eu de geste déplacé, se justifie la chaîne du groupe Canal+, qui le maintient donc à l'antenne. L'animateur lui dit envisager de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. France Info, il est 5h07. Le rêve continue pour le Maroc en Coupe d'Afrique des Nations de football. Le pays s'est qualifié hier soir pour la finale de la compétition au bout de la nuit, arrachant son billet des mains et des pieds du Nigeria lors d'une séance de tir au but irrespirable, hein, disons-le, Xavier Monferrand, 0-0 au bout des prolongations, la tension à son comble, tout un public qui retient son souffle et qui explose en fin de joie.
Une clameur à la hauteur du soulagement. Plus de 65 000 supporters marocains qui exultent à l'unisson dans les tribunes du stade Moulay Abdellah en fusion pour fêter cette finale que tout un pays attend depuis 22 ans.
C'est beaucoup d'émotions, c'est le Maroc, c'est notre image.
Incroyable, les émotions, le Maroc c'est les émotions, c'est les tagines, le couscous, mais les émotions aussi les amis. Des lions de l'Atlas, c'est ça qu'on veut.
C'est une ambiance de feu aujourd'hui.
Et dis-moi quoi ?
Dis-moi vrai !
Dis-moi vrai !
La ferveur au stade et dans les rues de Rabat, une bonne partie de la nuit pour ce public parfois si critique envers son sélectionneur Walid Regragui, applaudi en conférence de presse et qui a tenu à remercier les supporters.
Je suis très 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 heureux pour le public marocain qui mérite ça. On a tellement souffert et le fait d'être aujourd'hui en finale de la Coupe d'Afrique chez nous, c'est un beau cadeau. Mais vraiment, félicitations aussi à nos joueurs et au public. Parce que Lyon, on a joué à 12, mais vraiment à 12.
Et Rabat, la belle endormie, va pouvoir rattraper le sommeil en retard d'ici dimanche. Et la finale face à un pays frère, le Sénégal, l'autre grand favori de la compétition.
Et on suivra cette finale avec vous, Xavier Monferrand du service des sports de Radio France. Merci beaucoup. À 5h09, c'est l'heure de votre météo, ma chère Christine Peña. Et avec vous, on surveille le Nord-Ouest.
Oui, de fortes pluies vont tomber de nouveau sur la Bretagne aujourd'hui. La Basse-Normandie également, sans vraiment arriver à rentrer un peu plus à l'intérieur du pays. Elles commenceront Macron à s'infiltrer vers le milieu de l'après-midi et surtout la soirée par la façade atlantique, les côtes de la Manche, en donnant de bonnes pluies. Alors surtout du vent, ce vent qui va s'accélérer ce soir, tempétueux, de nouveau dans le sillage de la tempête de la semaine dernière, mais vraiment, allez, 2, 3, voire 4 crans en dessous, hein, on aura du 100 km/h, pas plus, vers les côtes de la Manche, 90 à l'intérieur quand même, tout ceci dans la douceur, là où il fait le plus frais ce matin. C'est vraiment dans le sud-ouest et au sud de la Corse, 5 degrés à peine, comme à Mulhouse d'ailleurs, comme dans le nord-est. Et le plus doux, à votre avis ?
Oh, je
allez,
sais pas,
12 degrés à Toulon.
Ah non, c'est vers chez moi.
Bah oui.
Ah bah merci beaucoup à Christine Peña. C'est vrai que c'est pas très étonnant que le plus doux ce soit à Toulon,
oui,
évidemment.
Toujours,
merci
encore.
Beaucoup, ma douce Christine Peña. Il est 5h10.
France Info, le monde d'Élodie.
Bonjour, c'est Élodie Suigo. Je vous retrouve du lundi au vendredi sur France Info, cinéma, théâtre, littérature, musique, sport. Chaque jour, je vous propose un entretien sous forme de portrait avec un artiste autour de son actualité.
Le monde d'Élodie, c'est toute la semaine à 5h20 et 10h50 sur France Info.
À venir d'ici 5h30 sur France Info, deux reportages exceptionnels dans 5 minutes. Nous serons en Turquie, à la frontière avec l'Iran. C'est là où certains sont parvenus à fuir la répression du régime des Mollahs. On le rappelle, près de 3500 morts et c'est la fourchette basse fournie par un bilan très provisoire évidemment de la répression en Iran. Nous serons aussi à Kiev, la capitale ukrainienne où les habitants sont privés de chauffage en raison des frappes russes alors qu'il fait moins 15, moins 17, moins 20 degrés. Mais d'abord sur France Info, la mission quasi impossible des jeunes Français.
France Info, 5h-6h, William Decosta.
Cette mission, c'est trouver un logement. Alors oui, c'est difficile pour tout le monde, mais encore plus pour les jeunes. C'est ce que mesure une étude Odoxa qui a été commandée par le principal promoteur immobilier de France, Nexity, et qui veut mettre ce sujet au cœur de la campagne des municipales. On le rappelle, on votera dans 2 mois. Bonjour Marina Cavitaine.
Bonjour à tous.
Spécialiste logement de la rédaction de France Info. Alors parmi les sondés qui ont entre 18 et 34 ans, 61% disent avoir déjà rencontré des difficultés pour se loger. Et ce qui est intéressant, Marina, c'est que c'est 23 points de plus que ce que l'on voit chez les Français les plus âgés.
Oui, c'est valable partout, à part en Bourgogne, Franche-Comté et Grand Est, où là, ça descend à 50%. Et puis, ça ne concerne pas que les grandes villes. Moi, je suis allée à Orléans, où le nombre d'étudiants a doublé en 10 ans. Ville classée zone tendue pour l'immobilier, ça veut dire qu'il y a là-bas beaucoup plus de demandes que d'offres.
Moi, c'est Hugo, j'ai 21 ans, bientôt 22 ans. Et donc cette année, j'ai pour projet de prendre mon premier appartement.
Sur le campus universitaire, Hugo est en train de scroller sur Se Loger quand je l'aborde. Il illustre parfaitement ce qui ressort de l'étude. Chez les plus jeunes, logement est synonyme de renoncement. Hugo, comme 37% des sondés, a abandonné l'idée de vivre en centre-ville.
Et on s'excentre très vite en fait du centre-ville, alors que les lieux d'études, eux, sont en centre-ville. Donc après, ça fait des déplacements.
Ils sont aussi 40% à renoncer carrément à habiter dans la ville de leur choix.
Alors c'est vrai que moi j'ai pas mal de connaissances qui eux font leurs études à Paris et qui font les allers-retours Orléans-Paris tous les jours. C'est un rythme à prendre.
Et puis 30% ont déjà renoncé à candidater à un emploi faute de pouvoir se loger à proximité et ça angoisse Hugo pour l'avenir.
Si on imagine qu'on se sent pas bien à son travail, on va pas facilement le quitter. Et ça rajoute aussi une pression supplémentaire.
Et Marina, ceux qui ont trouvé, ce sont souvent ceux qui ont accepté un logement qui ne les satisfait pas.
7 sur 10 estiment avoir un problème de logement. Trop petit, mal isolé du bruit, mal chauffé. Là encore, c'est 14 points de plus que chez les Français plus âgés. Et puis le serpent se mord la queue, puisque quand ils essaient de déménager, comme Chloé...
Je trouvais certains, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, mais ils sont petits. Ou si les charges aussi, ils ne comprennent pas l'électricité et tout, et le chauffage électrique, et c'est mal isolé, du coup, nous, on paye déjà, disons, 550, plus après les frais de chauffage. C'est énorme pour un étudiant. Je me suis tournée vers la colocation, mais ce n'est pas l'idéal, parce que tout le monde aimerait avoir son chez-soi.
Quittons le campus maintenant, traversons la Loire pour aller dans ce centre-ville si convoité, rencontrer Morgane, agent immobilier à deux pas de la cathédrale. Chaque année entre juin et septembre, Pour chaque annonce publiée, elle reçoit une cinquantaine de candidatures.
Ça peut être particulièrement complexe lorsqu'ils ont leurs résultats Parcoursup. C'est au plus rapide parce qu'effectivement, tous les étudiants cherchent à se loger sur leur ville où ils ont reçu leur candidature validée. Ils peuvent parfois renoncer à leur premier choix parce que la zone est tellement tendue qu'ils ne trouvent pas d'appartement.
24% des sondés disent avoir renoncé à certaines études à cause du problème du logement.
Alors Marina, on l'entend, certains renoncent pour pouvoir trouver un toit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à retenir, Marina, dans ce sondage Odoxa ?
Le sentiment de déclassement ressenti par 7 jeunes sur 10. Ils estiment que l'accès au logement est plus difficile pour eux qu'à l'époque où leurs parents avaient leur âge. Et puis enfin, et puisque cette étude sort en pleine campagne des municipales, 63% des 18-34 ans auraient plus envie de voter pour un candidat qui propose des mesures pour faciliter l'accès au logement, et ce, quelle que soit sa couleur politique. C'est 9 points de plus que sur l'ensemble des Français.
Merci beaucoup Marina Capitaine, spécialiste logement de France Info, 5h15. Près de 3500 morts, au moins, c'est le dernier bilan de la répression en Iran fourni par l'ONG Iran Human Rights, la seule qui est à peu près en capacité d'en donner un de bilan, car on le rappelle, le pays est toujours coupé du monde avec des coupures d'Internet. Alors comment trouver des témoignages de ce qui se passe en Iran? Marie-Pierre Véraud, vous nous emmenez à Kapıköy. C'est en Turquie, au poste frontière qui permet aux Iraniens de rejoindre l'est de la Turquie. Ils sont de plus en plus nombreux ces derniers jours à fuir le pays, évidemment, pour retrouver une connexion au monde et fuir cette répression. Et certains ont accepté de témoigner de l'horreur des derniers jours sous couvert de l'anonymat. À votre micro, Marie-Pierre.
Il se serre sous la neige qui tombe dru en attendant la voiture qui les emmènera vers Van, la grande ville turque à une centaine de kilomètres, et vers une connexion internet, eux qui sont coupés du monde depuis près d'une semaine. Nous les appellerons Sam et Azine, un jeune couple de développeurs de Téhéran, témoins de massacres, raconte-t-il.
We heard that shotgun and bullets voices.
Nous avons entendu le son des tirs et la voix des balles, et quand on a regardé dans la rue depuis notre fenêtre, on a vu beaucoup de sang. Beaucoup de gens ont été tués, au hasard.
Je pense qu'ils en ont tué jusqu'à 500 en une heure.
Et son mari ajoute, les tueurs, ce sont les gardiens de la révolution. Mais il n'y a pas que Téhéran, explique un homme venu d'une petite ville qu'il préfère ne pas citer. Il y avait des manifestations jusque dans les villages et une répression féroce par des agents infiltrés du régime.
Cette fois-ci, c'était vraiment gros, même dans les toutes petites villes, pour la première fois. Et on a vu des groupes infiltrés, des jeunes de 20-25 ans, avec des fusils, ils tiraient sur tout. Après 6 heures du soir, toute personne dehors se faisait tirer dessus sans raison, sans avertissement, rien. Ils tirent, c'est tout. Et c'est un désastre vraiment énorme. Chaque petite ville a des morts, au moins 20 ou 30. Ils refusent de rendre les corps. Ils demandent tellement d'argent pour les rendre aux familles. Ils n'autorisent pas les funérailles, rien.
Hors micro, il dit que les gardiens de la révolution demandent 3 000 $ pour rendre les dépouilles. Tous parlent de ces corps innombrables dans les rues, une répression qui a éteint les manifestations, disent ces Iraniens. Un peu plus loin, une jeune étudiante.
J'ai vu des choses horribles dans les rues. Ils tiraient directement dans les yeux des gens. Ils les ont rendus aveugles. Maintenant, tous ont peur pour leur vie. Je suis tellement triste pour mon pays. Nous ne méritons pas cela. Trump dit qu'il va nous aider, mais maintenant lui aussi est silencieux.
C'est pourtant vers lui que beaucoup se tournent quand ils nous disent que les Iraniens ont désormais besoin du monde pour mettre à bas le régime des mollahs. Mais il faut agir avec précision, estime Sam.
Bombarder les infrastructures, ce serait le pire. Mais des frappes précises sur les bases de gardiens de la révolution et des soldats qui leur sont affiliés, cela pourrait être utile. Les gens espèrent se débarrasser de ce régime, mais cela dépend des actes de Trump.
Ils pensent que seuls, face à la répression inouïe du régime, ils n'y parviendront pas.
France Info, reportage en Turquie à Kapıköy, à la frontière avec l'Iran, signé Marie-Pierre Véraud. Le froid est glacial en ce moment en Ukraine. La Russie continue de frapper. Le chauffage ne marche plus, mais comme depuis 4 ans, les Ukrainiens s'adaptent. Reportage sur place dans un instant.
France Info, 5h-6h.
Bonjour Philippine Thibaudot.
Bonjour.
À 5h20, c'est l'heure de l'info en une minute avec vous et à la une. Des militaires français en route pour le Groenland.
Annonce d'Emmanuel Macron hier soir pour participer à une mission européenne. L'idée, soutenir l'île Arctique sous souveraineté danoise et convoitée par Donald Trump. L'exploration militaire en compagnie aussi de l'Allemagne, la Norvège ou encore la Suède est prévue jusqu'à samedi. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui sur l'Iran. Réunion de dernière minute à la demande des États-Unis. Washington menace d'intervenir face à la répression des manifestations de contestation iranienne. Ça sera aussi au cœur des discussions du Conseil de défense convoqué en urgence ce matin par l'Elysée avant les vœux aux armées d'Emmanuel Macron dans les Bouches-du-Rhône. Jean-Marc Morandini reste à l'antenne de CNews dès aujourd'hui à 10h30, prévient la chaîne. L'animateur définitivement condamné hier pour corruption de mineurs par la Cour de cassation. Et puis suspense jusqu'au bout hier, les Marocains ont éliminé au tir au but le Nigérien 1-0. Le pays hôte rejoint donc le Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça se passe dimanche à 20h.
France Info.
Moins 16 degrés attendus à Kiev ce matin et pourtant les habitants de la capitale ukrainienne n'ont plus d'électricité pour se chauffer en raison de deux attaques menées en 4 jours par la Russie sur la ville. Maureen Mercier, des dizaines de milliers de personnes n'ont plus de quoi faire face au froid.
Dans ce quartier sur la rive gauche de Kiev, les plus chanceux n'ont droit qu'à 2 heures par jour d'électricité. La plupart n'ont plus de chauffage. Dans ce supermarché, ils viennent se réchauffer. Beaucoup refusent de témoigner parce qu'épuisés. Oleg, la cinquantaine, emmitouflé dans son manteau d'hiver. Chez lui, il raconte qu'il fait 11 degrés et la température continue de chuter. Son sourire tranche dans ce supermarché. Mais
lorsque je parle de tout cela, en fait, à l'intérieur, dans mon âme, profondément, je pleure. Vous savez, si je souris là, c'est pour tenir, pour ne pas devenir fou.
Dans ce quartier, non, personne n'imagine évacuer la capitale, comme l'a proposé le maire, le temps de laisser passer la vague de froid. Irina, vendeuse, elle est découragée, mais elle est aussi en colère. Elle est ulcérée par les propos du maire.
On est nombreux à n'avoir nulle part où aller, ni les moyens de nous en aller.
Irina, comme tout le monde ici, en est persuadée. La Russie va nous bombarder jusqu'à ce que les systèmes de chauffage ne soient définitivement plus réparables. La Russie veut faire plier l'Ukraine, l'obliger à signer un accord de paix favorable à Moscou. Les Ukrainiens sont épuisés, mais déterminés. Avons-nous d'autre choix que d'être braves ? Ce jeune père interrompt ses courses, le temps de résumer sa pensée.
Je pense que même dans la nuit totale, dans un blackout total, on ne signera pas un accord qui puisse jouer en notre défaveur. Pourquoi ? Parce que si on cède, on sera envoyé au goulag et c'est mieux de rester ici sans chauffage ni lumière plutôt que de subir la domination russe.
La vague de froid devrait durer au moins 2 semaines. Les compagnies d'eau, d'électricité, de chauffage travaillent d'arrache-pied pour tenter de réparer ce qui peut encore l'être. C'est l'hiver le plus dur depuis le début de la guerre.
France Info, reportage à Kiev, signé Maureen Mercier. Il est 5h23 et c'est l'heure du monde d'Élodie. Avec un invité qui revient et qui a beaucoup de choses à dire sur les Jeux de Paris.
Bonjour Tony Estanguet.
Bonjour.
C'est le canoë-kayak, hein. Vos exploits, vos victoires qui ont créé le lien avec le public, avec une carrière internationale qui a duré 12 années. 3 titres de champion olympique obtenus à Sydney en 2000, à Athènes en 2004 et à Londres en 2012. Vous êtes ensuite devenu coprésident du comité de candidature Paris 2024 avant de prendre la présidence du comité d'organisation de cette aventure rêvée, devenue réalité, les fameux Jeux Olympiques Paris 2024. Aujourd'hui, vous publiez avec la complicité de Camille Reynaud, Par amour du sport, aux éditions Calman Lévy. C'est les petites histoires de cette grande histoire d'olympisme français que vous avez souhaité nous raconter. C'était important justement de montrer aussi ce qui fait l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui.
Oui, finalement, c'est vrai qu'autant ça n'a jamais été vraiment un sujet pour moi d'écrire un livre sur les Jeux. Je ne pensais pas que je le ferais un jour. Et puis finalement, quelques mois après la fin des Jeux, j'ai été impressionné, ému par tous les témoignages que je continuais à recevoir. Les gens avaient envie d'en savoir plus. Je pense que tout le monde a un souvenir des Jeux, de ce qui s'est passé pendant l'événement. Mais peu de gens savaient vraiment par où on était passé et comment est-ce qu'on qu'on était arrivé là. Donc je l'ai fait et j'ai essayé de le faire effectivement de manière assez différente par rapport à tout ce que j'avais fait à ce moment-là, c'est-à-dire en essayant de ne pas trop dissocier le perso et le pro, de me confier, de partager un petit peu comment j'ai vraiment vécu les choses.
Vous avez effectivement démarré le canoë-kayak très jeune, hein, avec comme exemple votre père, trois fois champion de France, et vos deux frères aînés, Aldric et Patrice, Patrice médaillé de bronze dans la même discipline que vous au JO d'Atlanta 96. Vous avez eu très tôt un mental d'acier et vous êtes allé chercher un billet de qualification pour lequel votre frère vous affrontait avec toute son expérience. Comment vous avez vécu de mettre une gifle à votre frère aîné?
Ça a été un moment familial particulièrement compliqué, intense. C'est un peu le jour où je prends mon envol. J'arrête d'être le petit frère. Ce jour-là, j'ai dit stop. Je veux être Tony Estanguet. Je veux trouver aussi ma place. Et c'est vrai que quand on a affronté ce genre d'émotion où on affronte son frère, quand on est obligé de l'éliminer parce qu'il n'y a qu'une place, derrière, on se sent quand même différent. On se sent capable d'affronter n'importe qui. En quelques minutes, finalement, il y a un verrou qui a sauté en moi. Et derrière, ça a été l'une de mes plus belles saisons où j'ai été champion d'Europe. J'ai gagné 3 étapes de Coupe du Monde et ce premier titre de champion olympique en demi. Je volais presque sur l'eau à ce moment-là. Tellement c'était facile après avoir éliminé mon frère qui était vraiment l'épreuve la plus difficile de toute ma vie quelque part. Derrière, tout était beaucoup plus facile.
C'est étonnant parce qu'on s'était rencontrés quand vous étiez athlète et vous aviez du mal à vous livrer. Et là, dans cet ouvrage, on se rend compte à quel point les Jeux Olympiques, cette organisation, vous a changé. Vous le ressentez ça ?
Oui, je le ressens, mais j'ai mis du temps à le ressentir. Je pense que pendant cette aventure, je ne le ressentais pas. J'étais vraiment dans le contrôle, dans l'action, dans le niveau d'exigence finalement que je m'imposais quand j'étais athlète. J'ai essayé de m'imposer la même chose à l'aune de Paris 2024. Et c'est vrai que il a fallu quelques mois après la fin des Jeux pour comprendre finalement ce qui s'était passé, y compris dans ma vie. Et cet ouvrage, effectivement, pour moi, ça a été aussi intéressant parce que c'est la première fois de toute ma vie que j'essaie de mettre du personnel. Quelque part, je crois qu'au final, si on réussit, c'est parce qu'on arrive à bien gérer les deux. Le côté perso et le côté pro souvent sont imbriqués. Et donc, j'avais envie d'être un petit peu plus dans les confidences que ce que je n'avais jamais été.
Ce livre, il nous rappelle aussi des moments très forts qu'on a oubliés, comme par exemple les attentats à Paris. À un moment donné, tout le monde a eu peur qu'on fasse basculer l'espoir dans la retenue. Au contraire, le prisme a été inversé et ce qui s'est passé a davantage donné envie de faire rayonner Paris autrement.
Ouais, c'était très fort. C'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait vraiment un point de bascule. On aurait pu très facilement dire dans les conditions dans lesquelles on est aujourd'hui, on lançait à peine notre projet de candidature. Il fallait convaincre le monde entier de venir à Paris. Cette année 2015, elle a été très très difficile. Et c'est vrai que je dois aussi rendre hommage au président de la République public de l'époque, François Hollande, à la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui n'ont jamais hésité une seconde en disant mais on va pas se laisser faire, on va pas se laisser attaquer. Quelque part, on s'est senti aussi investi de cette mission supplémentaire de dire non seulement on va y aller, mais on va y aller encore deux fois plus parce que la France, elle a des choses à dire. La France, c'est ce pays qui a cette capacité de rassembler le monde et vous verrez en 2024, vous serez les bienvenus à Paris et on fêtera l'humanité dans ce qu'elle a de meilleur.
Votre père disait que le sport révélait le meilleur de nous-mêmes. L'été 2024 vous a montré que vous marchiez dans ses pas. C'est ça la plus belle victoire, de représenter cette famille qui vous a tant donné.
Il y a des messages qui remontent à la surface très longtemps après. Et moi, j'ai été, sans m'en rendre compte, bercé par son discours pendant des années et des années. Ce n'est que quelques mois après la fin des Jeux que je me suis rendu compte que finalement, c'était un peu grâce à lui. Je crois que c'est important aussi de remercier, de valoriser celles et ceux qui vous ont fait grandir et qui vous ont permis de réussir dans la vie.
Merci beaucoup, Tony Estanguet, d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Cet ouvrage est donc disponible par Amour du Sport aux éditions Calman Lévy avec la collaboration de Camille Reynaud. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et merci à vous, Élodie Suigo. On retrouve votre monde d'Élodie sur l'application Radio France et sur franceinfo.fr. La météo.
France Info Météo, avec l'alarme Vérissure, dissuasion, détection, vérification et mise en fuite. Pour une protection complète jour et nuit, devis gratuit sur Vérissure.fr.
Christine Peña, le calme avant l'agitation.
Mais oui, première info, c'est cette vigilance orange sur le Finistère pour les pluies soutenues et le risque d'inondation. C'est une perturbation en fait qui va stagner sur la pointe de la Bretagne. Là, toute la journée, le vent devrait se renforcer sur le nord-ouest. 100 km par heure pour les côtes bretonnes, 70 à 90 pour l'intérieur des pays de la Loire et de la Normandie. Alors, se poser la question sur la vigilance, extension ou pas, eh bien, non, a priori, me disait Météo France, là, à l'instant, car il n'y a rien d'exceptionnel, en fait, pour la saison.
D'accord.
Mais attention quand même au vent et à ces pluies. Ce qui est toujours au-dessus, ce sont les températures, hein, de 4 à 5 degrés au-dessus des normales. Absence de gelée ce matin et entre 10 et 15 de nouveau en journée, un petit peu comme hier. Et puis, à l'ouest, les pluies commenceront à rentrer par la façade atlantique, mais pas avant cet après-midi, milieu d'après-midi d'ailleurs. Et elles évolueront surtout en soirée à l'intérieur du pays. Elles devraient passer par Paris d'ailleurs dans la soirée. Dans le sud aussi, on surveille les pluies. Et là, ça va s'intensifier. Autour des Cévennes, il pleut. Ces pluies commenceront à prendre un caractère durable, intense, à partir de la fin de la journée. Cet épisode cévenol s'installe pour plusieurs jours, tout au long du week-end. Lundi et mardi, elles se décaleront certainement vers l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Voilà, puis on a le risque d'avalanche qui reste très élevé sur les massifs de la Vanoise et de la Haute-Tarentaise, avec un risque de 4 sur 5 pour ces deux massifs.
Et on le rappelle, on reste prudent car il y a eu 6 morts dans le massif des Alpes le week-end dernier en raison de ces avalanches. Merci beaucoup Christine Peña, au programme de la prochaine demi-heure sur France Info. Les municipales à Paris, où l'union de la gauche se fait sans les insoumis, ce sera dans 10 minutes. Le retour de BTS aussi dans la capitale, le groupe de K-pop qui prévoit de passer au Stade de France cet été, ce sera la playlist juste avant 6h. Mais d'abord le Groenland à la une d'un nouveau journal à 5h30. Bienvenue.
France Info. William Guécostin.
Nos positions sont différentes. Conclusion et sans doute euphémisme du patron de la diplomatie danoise qui était reçu à la Maison Blanche à Washington hier. Les États-Unis de Donald Trump continuent de réclamer le Groenland, territoire de l'Arctique sous souveraineté danoise. Hors de question, évidemment, pour Copenhague ou pour les Européens. Des militaires français, norvégiens, suédois vont d'ailleurs arriver aujourd'hui sur place pour participer à des exercices. Des Allemands aussi, Sébastien Baer.
Ce déploiement est organisé à la demande du Danemark, précise le communiqué de l'armée allemande. Dès ce matin, 13 militaires vont s'envoler pour Nuuk, la capitale groenlandaise. Objectif, toujours selon la Bundeswehr, examiner les conditions d'une éventuelle contribution militaire pour aider le Danemark à garantir la sécurité dans la région. L'accent sera mis sur la reconnaissance maritime. L'armée allemande pourrait déployer prochainement dans la zone son tout nouveau P-8A Poséidon, fabriqué par Boeing, un avion capable de surveiller de vastes étendues, de suivre les mouvements des navires et de localiser les sous-marins à l'aide de radars et de systèmes acoustiques et optiques. Ces derniers jours, Berlin a renouvelé son soutien au Groenland confronté aux menaces américaines. Mais en visite à Washington, le ministre allemand des Affaires étrangères s'est voulu rassurant et a minimisé le risque d'une attaque américaine. Inflexible, Donald Trump répète pourtant qu'il s'emparera du Groenland d'une manière ou d'une autre.
Merci Sébastien Baer, envoyé spécial de France Info à Berlin. Et nous serons dans moins d'un quart d'heure maintenant à Washington à nouveau pour revenir sur cette rencontre que vous évoquiez, Sébastien, entre les diplomates américains et danois hier. La grippe n'a pas dit son dernier mot en France après une baisse de la courbe des cas à la fin de l'année. Eh bien, l'épidémie menace de reprendre, selon Santé publique France. La raison, une recrudescence des cas chez les enfants qui risquent peut-être de se propager aux adultes et aux seniors. Rappelons que l'année dernière, 17 000 personnes sont mortes dans notre pays en raison du virus saisonnier. La ministre de l'Agriculture promet un poulailler de plus par an dans chaque département d'ici 2030. C'est une réaction à la pénurie d'œufs dans les supermarchés. Vous l'avez sans doute remarqué en raison de la hausse de la consommation et d'une production qui n'est pas à la hauteur. Annie Genevard annonce aussi un projet de loi pour lever certaines réglementations et doper cette production. Le permis de louer, à présent, il est en place désormais dans de nombreuses villes de France. Évidemment, l'objectif, c'est de lutter contre les marchands de sommeil. C'est un moyen de détecter les logements insalubres, moyen d'obliger les propriétaires à faire des travaux. Ça existe dans les Bouches-du-Rhône à Aubagne, où le périmètre d'application vient d'être élargi depuis le 1er janvier. Le nombre de logements soumis à ce permis, à cette demande d'autorisation en clair, a plus que doublé. 1300 logements du centre-ville sont concernés. Mesure qui rassure les locataires, évidemment, Mathilde Vinceneux, mais qui ne fait pas l'unanimité du côté des propriétaires.
Dans les rues étroites du centre-ville d'Aubagne, Laurence a vu la situation empirer. Elle est agent immobilier depuis 20 ans.
Tout le centre ancien s'est dégradé. Il y a eu beaucoup d'immeubles en péril aussi. Je pense que le permis de louer va aider quand même. Donc voilà, malheureusement, il faut qu'on force les propriétaires à faire des travaux et à rénover l'habitation à Aubagne.
Avec le permis de louer, les logements sont contrôlés avant la signature du bail. Une bonne chose pour Astrée, locataire. Elle confirme l'état douteux de certains appartements qu'elle a pu visiter.
Ce qui revenait souvent, c'était des appartes vraiment très 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 sombres. Je sentais qu'il y allait avoir des problèmes d'humidité ou quoi.
En place depuis 2023 et étendu depuis le 1er janvier, le permis de louer a quand même fait bouger un peu les choses, assure Benjamin, agent immobilier.
On a des logements qui sont en meilleur état, avec des, on va dire, plus aux normes que ce qu'on pouvait avoir avant.
Mais pour les propriétaires, il faut composer avec les délais un mois pour obtenir le permis de louer.
Ben, c'est un enfer.
Philippe, propriétaire d'un immeuble dans le centre-ville d'Aubagne.
Le problème, c'est qu'on doit le faire à chaque fois, chaque départ de nouveau locataire. Donc le locataire qui dit, mais attendez, mais moi je veux rentrer de suite. La personne s'en va et va trouver ailleurs. Vous perdez de la location. C'est d'une lourdeur.
Mais attention aux bailleurs qui ne respectent pas la règle. L'amende peut être salée jusqu'à 15 000 euros.
Merci beaucoup Mathilde de Vinceneux à Aubagne. Pour France Info, il est 5h34.
France Info, 5h-6h, William Gecosta.
Non, corriger son enfant n'est pas tolérable, il n'y a pas de petite violence. C'est la conclusion de la Cour de cassation, la plus haute juridiction française. Ces magistrats se sont prononcés à partir d'un dossier précis, celui d'un policier qui a été relaxé il y a 2 ans pour des violences sur ses 2 garçons. La Cour d'appel à l'époque avait estimé qu'il y avait un droit de correction et certains magistrats ont pu d'ailleurs par le passé évoquer souvent une forme de tolérance pour des violences jugées éducatives. La Cour de cassation dit donc non et elle rappelle qu'en 2019, la loi a été modifiée et que l'autorité parentale doit s'exercer sans violence physique ou psychologique. Joëlle Sicamois est la directrice de la Fondation pour l'enfance. Elle réagit à cette décision de la Cour de cassation.
On est extrêmement soulagé que cette décision ait été prise. La loi de juillet 2019, elle est extrêmement claire. Et puis, ce qui nous avait énormément choqué, c'est l'affirmation que finalement, ces actes de violence n'avaient pas d'impact, n'avaient pas créé de dommages sur les enfants. Il y a pourtant énormément d'études aujourd'hui qui prouvent à quel point les dommages peuvent être forts à court terme, à moyen terme et même à long terme sur le développement des enfants. Donc ça, pour nous, c'était absolument inadmissible. Et on est très heureux que les choses aient été redites avec force et c'était extrêmement important. Il faut que les parents se rendent compte que des actes de ces ordres-là ont des conséquences importantes sur le développement et le comportement de leurs enfants.
La loi de 2019 à laquelle vous faisiez allusion il y a un instant, c'est cette loi dite anti-fessée qui avait inscrit justement dans le code civil que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Pourquoi, selon vous, il a fallu attendre cet arrêt de la Cour de cassation ? C'est assez incroyable. Ça veut dire quoi ? Que les mentalités ont encore du mal à évoluer, y compris au sein de l'institution judiciaire ?
Les mentalités, elles ont du mal à évoluer au sein de la société de façon générale. C'est-à-dire que ces pratiques, elles sont encore très ancrées. Dans un dernier baromètre qu'on a mené, on a montré que 80% des parents faisaient encore usage de violences éducatives ordinaires. Il n'y a pas eu, suite à la loi de 2019, de communication claire, nationale, qui explique finalement aux parents, mais finalement à tous les adultes qui s'occupent des enfants, pourquoi on avait promulgué cette loi, pourquoi elle était importante. C'était pas une loi militante pour faire passer un texte, c'était une loi qui était là pour défendre les enfants, pour défendre leur bien-être, leur bon développement. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on regrette encore. Cette loi n'est pas comprise. On a 60% des parents qui considèrent que l'État n'avait pas à légiférer sur ce sujet.
On va rappeler que la situation, elle reste préoccupante sur le terrain avec ce chiffre. Peut-être vous allez me le confirmer, mais je le trouve assez incroyable. Mais un enfant qui meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents.
Oui, non, je vous le confirme. Bien sûr que c'est... Il y a quand même, dans notre société, une difficulté à accepter la question de la violence faite aux enfants, à accepter d'en parler, à la reconnaître. Et puis, il y a les violences éducatives ordinaires, c'est un terreau fertile à d'autres violences. Ça n'est pas forcément obligatoire que d'autres violences naissent, mais à partir du moment où on s'autorise cette sorte de pouvoir sur l'enfant, c'est-à-dire que j'ai le pouvoir de le corriger, j'ai le pouvoir de lui faire subir un certain nombre de violences, eh bien, quand ça s'arrête ? À quel moment on met la limite ? La limite, elle est très claire, elle est posée par la loi. Il n'y a pas de violence envers les enfants.
Qu'est-ce que vous rangez dans la catégorie des violences éducatives ordinaires ?
Alors, il y a les violences physiques, ça tout le monde comprend, hein, les fessées, les gifles, voilà. Psychologiques, c'est-à-dire vous pouvez menacer un enfant, lui dire qu'il est nul, le rabaisser sans cesse. Il y a la violence affective, c'est-à-dire refuser de l'affection à son enfant, la violence verbale, les mots qui blessent. Voilà, ce sont tous ces types de violences, c'est-à-dire des actions au quotidien qui, de façon répétée, ont une incidence sur l'estime de soi des enfants, leur capacité d'apprentissage. Un enfant à qui on répète toute la journée qu'il est nul, qu'il comprend rien, qu'on rabaisse, et ben il va évidemment avoir beaucoup plus de mal qu'un autre à apprendre correctement à l'école, parce qu'il va manquer de confiance en lui, il va pas avoir d'estime de lui, et ça peut aller plus loin. Ça peut, si vous avez un enfant qui vit régulièrement des violences physiques, il va aussi peut-être plus tard développer une forme de dépression. Certains, ça peut aller jusqu'à des addictions. Enfin, je ne peux pas vous donner un exemple en particulier parce qu'en fait, il y a tout un tas d'impacts qui existent et qui vont pouvoir vraiment rendre la vie de ces enfants à l'âge adulte beaucoup plus compliquée que pour les autres.
Et la directrice de la Fondation pour l'enfance, Joëlle Sicamois, qui répondait sur France Info à Julien Langlais. Et nous repartons dans notre Tour de France des municipales à l'approche du scrutin en mars prochain. Notre étape aujourd'hui, Paris, pas très loin de la maison de la radio, où Emmanuel Grégoire a tenu son premier meeting de campagne hier soir à la Bellevilloise. C'est une salle emblématique de la capitale. C'est le candidat PS, Emmanuel Grégoire, rappelons-le, candidat à la mairie, désormais soutenu par tout le reste de la gauche, à l'exception des Insoumis. Et Elia Bergel, la question de l'attitude à adopter vis-à-vis de LFI, elle était évidemment dans toutes les têtes à ce meeting qui a fait le plein.
Oui, niveau affluence, le pari semble gagné.
On ne va pas tous pouvoir vous accueillir.
Emmanuel Grégoire commence donc son meeting sur le trottoir avec un haut-parleur.
D'abord, vous dire qu'on sera ravis de prendre une immense salle la prochaine fois.
Le PS revendique 2000 personnes à l'intérieur. Le candidat déroule son programme.
Demain, les fournitures scolaires seront gratuites pour les familles qui en ont besoin. Nous fournirons pour les plus petits un goûter à l'école équilibré et lui aussi gratuit.
Le socialiste parle devant des drapeaux PS évidemment, mais aussi écologiste et communiste. Les deux partis le soutiennent également.
Jamais l'union n'avait eu lieu dès le premier tour de la bataille.
Union de la gauche pour battre Rachida Dati, candidate de la droite et d'une partie des macronistes, car les sondages montrent que rien n'est joué à Paris. Mais une union sans la France insoumise, tant mieux, martèle ses militantes.
LFI, pour moi, c'est pas la gauche républicaine.
J'ai voté très longtemps LFI et je ne vote plus LFI.
Emmanuel Grégoire répète qu'il ne veut pas d'alliance avec LFI ni au premier, ni au second tour. Incompréhensible pour Jules, 23 ans.
C'est une connerie. Je savais pas qu'il avait dit ça, je pense que c'est dommage. J'aimerais que la gauche ait le plus de chances possible de gagner, mais bon.
Sophia Chikirou, la candidate insoumise à la mairie de Paris, est donnée dans certains sondages à plus de 10% au premier tour. Sans accord avec le PS, elle pourrait dans ce cas se maintenir au second. Attention danger, alerte cet électeur socialiste.
La droite saura voter utile. À gauche, il risque une vraie dispersion et un vrai risque de perdre Paris. Le risque que Paris bascule à droite et à l'extrême droite.
Un potentiel séisme alors que les socialistes dirigent Paris depuis 25 ans. Qui affaiblirait le PS à un an de l'élection présidentielle.
France Info reportage signé Elia Bergel du service politique. La tapisserie de Bayeux va partir pour le Royaume-Uni. Un prêt, souvenez-vous, de la France en signe d'amitié. Et cette tapisserie, on l'évoque à nouveau, œuvre qui raconte, rappelons-le, la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066. Nous en reparlons car un fragment de cette tapisserie a été officiellement rendu hier à la ville de Bayeux par les archives du Schleswig-Holstein, un land allemand, car c'est un trésor de guerre. Ce fragment, il a été volé en 1941 par les nazis, retrouvé il y a 2 ans, découverte assez improbable d'ailleurs, Martin Cotta.
La surprise est grande en 2023 quand en Allemagne, dans le Schleswig-Holstein, les employés d'un musée découvrent le morceau de tapisserie, tout à fait par hasard, lors d'un catalogage des dossiers de Karl Schlabo, le scientifique nazi et voleur du fragment. Rainer Ehring est le directeur des archives allemandes dans la région.
Ça a été vraiment une grande surprise, parce que lorsque nous avons étudié les dossiers de Karl Schlabo, on n'avait aucune idée de ce qu'on allait trouver dedans. Et donc après, j'ai immédiatement contacté le ministère. Ils m'ont dit d'en faire ce que je voulais. Mais pour moi, c'est normal de rendre ce fragment à la France. Aujourd'hui, je suis heureux qu'il revienne dans les mains de ceux à qui il appartient. En 1935, Himmler forme l'équipe scientifique d'Annenerbe pour valoriser l'héritage ancestral, dit-il, de la race aryenne. Les nazis s'intéressent alors aux Vikings et au Moyen-Âge. Ils découpent un bout de la tapisserie avec l'objectif de réaliser la toute première étude scientifique du genre. Antoine Vernet, le conservateur en chef des musées de Bayeux.
Karl Schlabloh a effectué un prélèvement afin de pouvoir les comparer le textile de la tapisserie de Bayeux avec des fragments qu'il conservait dans ses laboratoires en Allemagne.
Sur les 70 mètres de tapisserie, on ignore d'où provient le morceau blanc de quelques centimètres. Ce fragment ne sera probablement pas montré au public. La dernière fois qu'un fragment de la tapisserie a été récupéré par Bayeux, c'était en 1872, morceau volé par un Britannique à l'époque. Celui-là pourrait être montré au public en 2027 lors de la réouverture du musée.
Un reportage signé Martin Cotta, ici Normandie pour France Info. Nous sommes à Washington. Dans un instant où la rencontre entre les diplomaties américaines et danoises n'ont vraiment pas dissipé l'inquiétude autour du Groenland, c'est peut-être même le contraire.
France Info, 5h-6h.
À 6h moins le quart, le retour de l'info en une minute avec Philippine Thibaudeau et à la une, Donald Trump qui assure que les tueries prennent fin en Iran.
En pleine répression des manifestations de protestation alors que les États-Unis menaçaient d'intervenir pour y mettre fin. Pas de pendaison hier ou aujourd'hui, confirme de son côté le ministre des Affaires étrangères iranien. Au moins 3400 manifestants ont été tués en Iran depuis le début du mouvement, selon l'ONG Iran Human Rights. Iran et Groenland au cœur d'un conseil de défense convoqué en urgence à l'Élysée ce matin. Emmanuel Macron réunit les ministres concernés ainsi que les chefs militaires. La France a déjà annoncé le déploiement de troupes sur l'île Arctique alors que Donald Trump lorgne son territoire. L'Allemagne, la Suède, la Norvège et le Danemark feront de même. En France, un poulailler de plus par département et par an jusqu'en 2030, annonce de la ministre de l'Agriculture. Face aux rayons de vie dans les supermarchés, pénurie due à la surréglementation qui ne suit pas la demande, selon Annie Genevard. Et puis ChatGPT, nouvelle source d'information, c'est ce qui ressort du baromètre Lacroix Verriant La Poste sur la confiance des Français dans les médias. 4 personnes sur 10 utilisent l'intelligence artificielle pour s'informer.
France Info.
Il y avait l'espoir de calmer le jeu avec la rencontre hier à Washington entre l'administration Trump et les représentants du Danemark et du Groenland. Mais visiblement, cette rencontre n'a pas porté ses fruits. Le gouvernement américain n'en démord pas. Il compte prendre le contrôle du Groenland pour, je cite, des raisons de sécurité nationale. Bonjour Franck Madvon.
Bonjour, bonjour à tous.
Correspondant à Washington de France Info. Et face à cela, le Danemark refuse de céder et présente ses lignes rouges.
Et c'est le ministre danois des Affaires étrangères qui s'est fait le porte-parole de son pays à Washington. Lars Løkke Rasmussen a été reçu avec son homologue du Groenland par le vice-président J.D. Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio. Il a marché sur un fil devant la presse, affirmé la position du Danemark tout en évitant de froisser Donald Trump. Voilà l'objectif. La rencontre a duré moins d'une heure, pas de crise, pas de clash. Mais le constat d'un désaccord fondamental, c'est l'expression employée. Voici le point de vue du ministre Rasmussen sur cette rencontre. Nous n'avons pas réussi à changer la position américaine. Il est clair que le président a le désir de conquérir le Groenland. Nous avons dit clairement que ce n'était pas dans l'intérêt de notre royaume. Nous voulons travailler avec nos amis, nos alliés américains, mais il faut que ce soit une coopération respectueuse qui tienne compte de nos lignes rouges. Et son homologue du Groenland, Vivian Motzfeldt, estime pour sa part que la rencontre a été éprouvante, mais s'est très bien déroulée.
Et Franck, quelles sont les prochaines étapes ?
Alors, une seule décision a été annoncée, la création d'un groupe de travail de haut niveau pour tenter de satisfaire à la fois les exigences de sécurité de Washington et l'intégrité territoriale du Danemark. C'est ainsi que le ministre Rasmussen présente les choses. Côté américain, peu de réactions, mais on comprend que le gouvernement reste sur une ligne dure. Il souhaite prendre le contrôle de l'île. Donald Trump a redit hier, par message, puis devant les caméras, que c'était une question de sécurité nationale. Il appelle l'OTAN à soutenir sa démarche. « Si nous n'y allons pas, dit-il en substance, la Russie et la Chine prendront la place ». À ce propos, les représentants du Danemark et du Groenland précisent qu'il n'y a aucun navire chinois dans la zone, contrairement à ce qu'affirme Donald Trump. Le Danemark renforce renforce déjà le dispositif militaire au Groenland et se dit prêt à faire plus. Il est soutenu, on l'a évoqué, par plusieurs pays européens, dont maintenant la France, donc, qui envoie des hommes. En résumé, il s'agit de montrer aux États-Unis que l'Europe s'implique en Arctique, qu'on peut compter sur elle. Alors que Donald Trump continue à se moquer d'un Danemark inoffensif, tout juste bon à déployer des chiens de traîneau supplémentaires.
Merci beaucoup Franck Madvon pour ces précisions, correspondant de France Info à Washington. Alors comment réagissent les Danois cette fois après cette rencontre à la Maison Blanche entre leurs représentants et les représentants américains? Frédéric Ingemann est journaliste à Copenhague, docteur en relations internationales.
Tout le monde l'a suivi avec un très grand intérêt et aussi avec une très grande inquiétude. Parce que c'est ce qu'il faut comprendre ailleurs en Europe, c'est qu'on est réellement inquiétés. Les Danois sont inquiétés, on se sent intimidés. Pareil pour le peuple groenlandais qui se sent harcelé, intimidé et qui se demande, commence vraiment à se demander quoi faire en cas d'une invasion militaire américaine. Une question qu'on n'a jamais cru devoir se poser. Il faut comprendre aussi que durant des années, le Groenland a fait partie d'un région sous basse tension. Ceci a commencé à changer. Néanmoins, le Groenland fait partie de l'OTAN et que la sécurité du Groenland est assurée par l'OTAN. À l'époque, les États-Unis avaient 17 bases militaires américaines. Aujourd'hui, ils ont une seule. Ils avaient à l'époque 10 000 soldats américains sur l'île. Aujourd'hui, il y en a à peu près 200. Juste pour dire que ce que réclame Donald Trump, à savoir que les Danois, on n'a pas su garantir la sécurité du Groenland, ceci est faux, c'est du fake news. Les États-Unis ont fait le même calcul après la fin de la guerre froide. Donc maintenant, le Danemark est censé et veut bien assurer, augmenter la sécurité du Groenland dans le cadre de l'OTAN avec tous nos autres alliés, y compris avec les États-Unis. Mais pour le gouvernement danois, pour le gouvernement groenlandais, pour le royaume de Danemark, la question, l'ambition impériale de Trump de posséder, d'acquérir, si nécessaire par la force, le Groenland, ceci est, comme vient de dire le ministre des Affaires étrangères danois, une ligne rouge.
La journaliste danoise Frédérique Ingemann sur France Info. Alors nous l'évoquions il y a quelques minutes face à cette situation. La France va participer à une mission militaire européenne au Groenland, comme les Suédois et les Allemands. De premiers éléments militaires français sont d'ores et déjà en chemin, écrit Emmanuel Macron, pour une mission d'exercice face à une situation qui étonne, qui sidère même au-delà du Danemark. Le général Jérôme Pellistrandi est le rédacteur en chef de la revue Défense Nationale.
On est dans un scénario qui n'avait jamais été imaginé en quelque sorte. Et donc l'objectif, c'est avec bien sûr le Danemark, mais nos alliés européens, et je pense en particulier à l'Allemagne et à la Suède, d'être présents sur le territoire groenlandais et de montrer à la fois notre solidarité avec les Danois, le fait que l'OTAN participe à la sécurité du Groenland, et pour envoyer un message aux Américains. C'est-à-dire que très clairement, les Américains n'ont pas besoin de conquérir le Groenland, soi-disant pour assurer leur sécurité. Et donc cette mission militaire va en quelque sorte symboliser ce soutien à, d'une part, à l'unité du Royaume du Danemark, mais aussi au fait que l'OTAN prend en charge la sécurité du Groenland.
Est-ce qu'on sait exactement en quoi va consister cette mission?
En gros, ce sont des missions qui vont, avec nos partenaires donc européens, entre une dizaine et une vingtaine de personnels militaires, et qui vont en quelque sorte participer à la cohésion et à la cohérence du dispositif de sécurité. Il faut bien comprendre qu'il y a aussi le fait que nous sommes déjà, de manière régulière, présent dans, on va dire, dans la région du Grand Nord. Parce que la problématique, c'est assurer la sécurité de cette région du Grand Nord face à de potentielles menaces qui pourraient venir de la Russie. Bon, sachant qu'il n'y a pas de bateaux chinois, contrairement à ce que proclame Washington. Mais c'est une crise majeure. C'est une crise, et on voit bien avec les termes qui ont été employés par les diplomates danois, quand on parle d'inacceptable, c'est que vraiment on est allé très loin. Et donc cette mission militaire, c'est bien effectivement symbolique, enfin plus que symbolique, c'est montrer la détermination des Européens à garantir d'une part la souveraineté du Royaume du Danemark et participer à la sécurité du Groenland qui honnêtement n'est pas directement menacé par une invasion russe ou par l'invasion d'extraterrestres chinois par exemple.
En un mot général, qu'est-ce qui se joue dans cette histoire, l'avenir de l'OTAN par exemple?
Oui, en fait, on en est là, c'est-à-dire que il faut faire comprendre à Washington que les Américains ont tous les moyens diplomatiques s'ils veulent renforcer leur dispositif militaire, mais il y a une différence entre participer à la protection, renforcer un dispositif, participer à l'exploitation économique, sans parler bien sûr des problèmes écologiques, et en fait avoir la volonté de conquérir. En fait, Donald Trump, il veut un titre de propriété, et c'est bien ça ce qui est totalement inacceptable. Et donc, ça pourrait être une crise majeure pour l'OTAN dans les jours et semaines à venir.
Le général Jérôme Pellistrandi qui répondait aux questions France Info de Julien Langlais, la BTS Mania dans la playlist de Philippine Thibaudot qui arrive. Ce sera après l'Actu Éco. Bonjour Emmanuel Cuny.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'Éco avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Les trois infos éco qu'il faut retenir ce matin, Emmanuel, on commence avec l'État qui veut aider Air France KLM à alléger sa dette.
Oui, le ministère de l'économie envisage d'abandonner des créances de la compagnie aérienne datant de la crise Covid. Abandon de créances dues à l'État, proche de 730 millions d'euros, et ce en accord avec la Commission européenne. Comme l'ensemble du secteur aérien mondial, Air France KLM avait subi de plein fouet les confinements et les fermetures de frontières décidées par les gouvernements pour tenter de juguler la circulation du virus. L'entreprise franco-néerlandaise a déjà été recapitalisée deux fois, l'État français doublant sa participation au capital à 28%.
Une très lourde amende pour l'opérateur téléphonique Free.
42 millions d'euros au total, condamnation pour manquement aux obligations de sécurité lors d'une fuite de données spectaculaires en 2024. Une cyberattaque dont Free et Free Mobile se souviendront longtemps. En octobre donc 2024, l'opérateur avait été victime d'un vol de données massifs concernant 24 millions de clients. Parallèlement à l'attaque informatique, un pirate avait proposé à la vente en ligne un fichier censé contenir les informations dérobées, dont des numéros de compte bancaire.
Le Royaume-Uni propose d'aider l'Europe à se réarmer.
Volonté de la City, la place financière britannique. L'Europe et le Royaume-Uni sont confrontés aux mêmes défis. Et c'est important que nous travaillions ensemble là où nous avons des intérêts en commun. C'est ce qu'affirme l'organisme qui gère le quartier d'affaires historique au cœur de Londres. Par cette initiative, 6 ans après le Brexit, les investisseurs londoniens entendent conserver un rôle majeur dans l'économie européenne.
Emmanuel, on prend rendez-vous avec vous à 6h23 pour le Brief Éco.
La France continue d'emprunter facilement sur les marchés financiers pour rembourser sa dette. L'agence France Trésor se félicite des derniers chiffres. 10 milliards d'euros empruntés sur 20 ans, du jamais vu. Alors les marchés continuent visiblement de faire confiance à la signature française malgré l'absence de budget pour 2026. Mais est-ce réellement à bon compte? Nous tenterons d'y voir plus clair.
Merci beaucoup Emmanuel Cuny. On vous retrouve donc dans moins d'une demi-heure à 5h56. C'est l'heure de la playlist du jour avec vous Philippine Thibaudot, avec le retour du groupe de K-pop le plus célèbre du monde, avec une nouvelle tournée mondiale qui passera par la France.
Je vous donne trois lettres, BTS, et vous avez... un groupe ultra populaire sud-coréen de K-pop créé en 2013 et qui annonce cette semaine une nouvelle tournée mondiale 4 ans après leur absence. Les membres du boys band faisaient en fait leur service militaire obligatoire en Corée du Sud pour tous les hommes de moins de 30 ans. Retour donc très attendu par les fans qu'on appelle ORMY, un peu comme les Swifties de Taylor Swift. Réaction sur les réseaux sociaux.
Ah oui.
Voilà, beaucoup d'enthousiasme, vous l'entendez. Ce sera les 17 et 18 juillet prochains au Stade de France.
Alors nous sommes nombreux, je m'inclus, à penser que BTS c'est un diplôme Bac plus 2. Alors non. Et pour ceux qui ne les connaissent pas, Philippine, alors qui sont-ils?
Ils s'appellent RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin V et Jungkook.
Enchanté.
Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils chantent, ils dansent en anglais, en coréen, sur de la pop, de l'électro, du rock, du R&B. Bref, ils savent tout faire dans ce mélange des genres qu'est la K-pop. BTS détient le record du groupe le plus écouté sur Spotify. Premier groupe de K-pop aussi à se classer en tête des charts Billboard aux États-Unis, notamment avec Dynamite de l'album Proof.
Et
cette tournée, elle s'annonce Philippines comme la plus grande jamais organisée par un groupe de K-pop.
79 concerts dans 34 villes et 4,5 millions de spectateurs attendus. C'est ce qu'on appelle un véritable comeback. Ah oui. À l'annonce hier, les actions de HYBE, agence qui a créé le groupe, étaient en hausse, plus 3%. Et la banque d'investissement IBK Securities voit les bénéfices d'exploitation de l'entreprise multipliés par 10 en 2026 par rapport à l'an passé. Bref, tournée attendue par beaucoup de monde. La mise en vente des billets pour les dates en France, ça sera le 24 janvier prochain. Je vous laisse un avant-goût avec ce featuring de BTS avec Coldplay, rien que ça.
Merci beaucoup Philippine Thibaudeau. Et puis je suis sûr que Christine Peña, elle ouais. sera, elle, au Stade de France les 17 et 18 juillet prochains. Ça, j'en suis certain.
En tout cas, elle bouge des épaules. Hein.
Ah, ah oui, elle bouge des épaules, mais tous les jours. Tous ouais. les jours. On vous retrouve maintenant pour votre météo, Christine Peña.
France Info Météo, avec Vérissure. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle priorité, votre sécurité. Demande de devis gratuit en moins d'une minute sur Vérissure.fr.
Alors, plus de coups d'épaule, mais des coups de vent sur le nord-ouest.
Oh, c'est beau ça.
Ah oui, c'est
effectivement,
poétique.
C'est agité. Hein. Le vent va de nouveau souffler en tempête sur le nord-ouest. Alors, c'est très atténué par rapport à ce qu'on a connu la semaine dernière. On a quand même du 100 km/h vers les côtes bretonnes attendues. 70 à 90 dans les terres, pays de la Loire, l'intérieur de la Bretagne, de la Normandie également sont concernés. Les cumuls de pluie sont importants. La vigilance orange est maintenue hein, sur le Finistère. Jusqu'à cet après-midi. Le reste des régions, eh bien, du sud-ouest au nord-est, on a pas mal de nuages, c'est mitigé. On aura quand même quelques éclaircies qui arriveront à se développer dans le sud. Alors là, c'est pas mieux, on a un épisode Cévenol qui est en préparation. Les pluies commenceront à être vraiment continues et de plus en plus intenses à partir de la fin de journée. Toujours très doux cet après-midi, entre 10 et 15 degrés, un peu comme hier en fait.
Merci beaucoup Christine Peña et c'est l'heure de frapper les trois coups pour la matinale de Jérôme Chapuis. Bonjour Jérôme. Voilà.
Merci William.
Bureau.
Oui, oh non, ça va aller. Bonjour William, vous revenez tout à l'heure pour le